Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du 180e numéro de Métropolez-vous. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous dédié à l'actualité de la métropole toulousaine. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de fausses nouvelles, de fake news, comme disent les anglo-saxons, et de théories complotistes. Ce phénomène s'est accentué depuis 2 ans et le début de la crise sanitaire, notamment s'agissant des origines de celle-ci et des campagnes de vaccination pour lutter contre la Covid-19 et ses conséquences. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, qui est aussi une guerre de l'information et des propagande est hélas venu ajouter une dimension supérieure au phénomène. Bref, nous serions tous, via les médias et les réseaux sociaux, confrontés en permanence aux fake news et aux rumeurs dans tous les domaines. Par un heureux hasard, qui n'en est pas tout à fait un d'ailleurs, le Quai des Savoirs propose en ce moment une exposition intitulée « Esprit critique, détrompez-vous », consacrée justement aux fausses nouvelles et aux moyens de les détecter et de s'en prémunir. Autant dire qu'elle est d'une brûlante actualité et qu'il était logique de lui dédier une émission. « Esprit critique, détrompez-vous » au Quai des Savoirs, c'est le sujet de ce numéro. J'ai la chance de recevoir dans cette émission la responsable de la programmation du Quai des Savoirs, Marina Léonard, et ce n'est pas une fausse nouvelle, soyez-en sûrs. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Je parle du Quai des Savoirs comme si tout le monde savait de quoi il s'agit. Ce n'est sans doute pas le cas de tous nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour commencer ce qu'est cet établissement métropolitain, situé, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, à l'angle du Grand Rond et des Allées Juliette, inauguré en 2016, quelles sont sa vocation, son organisation, ses activités et peut-être plus encore ses actions.
Bonjour, merci pour l'invitation tout d'abord. Alors effectivement, actualité brûlante aujourd'hui. Alors aujourd'hui depuis un petit moment, puisque l'expo a ouvert quand même depuis le 26 décembre et sera ouverte jusqu'au 6 novembre. Donc il reste un peu de temps pour aller la visiter. Alors le Quai des Savoirs effectivement a ouvert en 2016, février 2016. On a fêté l'anniversaire il n'y a pas très longtemps. C'est un établissement culturel dédié au partage des savoirs au sens large. Donc c'est vrai que l'objectif c'est de venir parler de la science en train de se faire, de ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises, dans les start-up. Qu'est-ce qui se passe en fait dans tous les domaines? Alors on n'a pas de domaine de prédilection, tout peut nous intéresser. Donc là on parle d'esprit critique, l'année dernière on parlait d'amour, l'année encore avant on parlait de lumière et des technologies en cours ou à venir. Donc c'est vrai que c'est très très vaste en termes de sujets, en termes d'approche, en tout cas toujours très connecté au monde scientifique et au monde de l'entreprise.
Important de préciser, pour que les gens comprennent bien, quand on parle de science, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle les sciences dures, ce sont aussi les sciences sociales.
Exactement. Donc, c'est vrai qu'on travaille systématiquement avec des sujets qu'on vient travailler de manière avec des sciences dures, bien évidemment, mais aussi avec des regards croisés, notamment avec le point de vue de sociologues, de philosophes, d'artistes également, puisqu'on a quand même tout un angle d'attaque sur des programmations culturelles, comme je le disais, avec des travaux sur des pièces de théâtre, des présentations d'installations, de projets d'art visuel, photos, etc. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'être dans ce croisement de regards et comment les différentes disciplines, comment les différentes formes d'expression artistique peuvent venir aussi éclairer les sujets et venir nous permettre à nous tous, citoyens, quel que soit notre âge, de mieux appréhender un certain nombre de sujets d'actualité et de notre environnement quotidien.
Et la programmation s'adresse aux grands et aux petits.
Exactement, puisqu'on a au niveau du Quai des Savoirs donc un espace d'exposition qui présente actuellement l'exposition Esprit critique, détrompez-vous. Mais on a d'autres espaces au niveau du Quai des Savoirs intramuros, notamment le Quai des Petits, qui est ouvert à tous les enfants non lecteurs, donc moins de 7 ans globalement, pour venir visiter ça en famille. Donc souvent on a des fratries, mais on a aussi des fois des groupes de crèches, des groupes de maternelles qui viennent découvrir, comprendre un peu, venir découvrir cette idée de tester, manipuler, expérimenter, se tromper, ce côté vraiment essai-erreur, qui est aussi à la base de la démarche scientifique et qu'on peut appréhender dès tout petit.
Alors je l'ai dit, c'est un équipement métropolitain, c'est-à-dire c'est Toulouse Métropole vraiment le principal financeur. Ce qui fait que vous avez aussi des actions, vous avez parlé d'intramuros, mais vous avez des actions hors les murs dans toutes les communes de la métropole.
Effectivement, je n'avais pas choisi le mot totalement au hasard. Nous, on est effectivement un établissement Toulouse Métropole en régie directe, donc c'est directement piloté par la métropole. Et on travaille avec aussi tous les acteurs de la métropole qui le souhaitent. Donc on travaille avec une vingtaine de communes à l'heure actuelle sur le sujet de l'esprit critique, donc avec parfois de la codiffusion d'expositions, parfois de l'organisation de débats, de projections suivies, d'échanges, d'ateliers associés à des conférences. Donc on est vraiment dans cette idée de construire avec les communes, avec les acteurs culturels du territoire, des propositions culturelles qui correspondent à leur sujet de la
ou
commune,
à leurs besoins,
à leurs besoins, et puis à leur population, puisque c'est vrai que d'une commune à l'autre, entre Tournefeuille ou Drémy-de-Lafage, il y a quand même des grands écarts en termes de moyens d'accueil des publics et puis de public aussi.
En tout cas, vous allez dans toutes les communes,
exactement,
de la plus grande à la plus petite, comme Drémy-de-Lafage que vous venez de citer. Merci pour cette présentation détaillée du Quai des Savoirs et de ses actions. Dans quelques minutes, nous allons nous intéresser à l'exposition Esprit critique, détromperez-vous, avec vous Marina Léonard. Avant cela, petit détour par l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. La nouvelle est tombée dimanche et elle a fait l'effet d'une bombe dans le milieu culturel toulousain et même bien au-delà. Tougan Sokiev a annoncé qu'il démissionnait de son poste de directeur musical de l'Orchestre National du Capitole.
Oui, le directeur musical de l'Orchestre de la Ville Rose quitte ses fonctions, mais aussi celle du Théâtre Bolchoï à Moscou. Depuis plusieurs jours, le chef d'orchestre était sommé de se positionner sur la guerre en Ukraine. Tougan Sokiev a choisi de ne pas choisir, étant obligé d'affronter l'option impossible de choisir entre mes chers musiciens russes et chers musiciens français. J'ai décidé de démissionner, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Quelques jours avant cette annonce, le maire de Toulouse lui a fait parvenir un courrier lui demandant de s'exprimer sur la situation actuelle en Ukraine. « Nous n'avons jamais attendu, ou pire, exigé de Tugan qu'il fasse un choix entre son pays natal et sa ville de cœur Toulouse. Cela n'aurait eu aucun sens. Je prends acte que le seul parti qu'il prend en conscience et connaissance de cause est celui de la musique », a déclaré Jean-Luc Moudinck, président de Toulouse Métropole.
C'est un des grands sujets dans le domaine des transports pour la métropole et pour la région. Il a été annoncé la création de 2 établissements publics locaux pour les lignes grande vitesse en Occitanie.
Oui, pour accompagner la bonne réalisation des projets de lignes à grande vitesse, le préfet d'Occitanie annonce la création de 2 établissements publics locaux, la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. Les ordonnances créant ces 2 structures ont été adoptées en Conseil des ministres et signées par le président de la République. Ces ordonnances vont permettre aux 24 collectivités d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine de s'organiser pour porter collectivement leur part du financement. Pour le GPSO, la société de financement générera la participation des collectivités territoriales à hauteur de 5,6 milliards d'euros pour un coût total chiffré à 14 milliards d'euros. Le coût pour l'ensemble du projet LGV, Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax. La société centralisera leur financement et bénéficiera de ressources fiscales dédiées.
Et puis dans l'actualité, il faut noter aussi que mars est le mois de l'égalité femmes-hommes, un événement qui se déploie à l'échelle de Toulouse Métropole.
Et près d'une quinzaine de communes se mobilisent à l'occasion du 8 mars en exposant des portraits de femmes inspirantes et remarquables de leur territoire communal. L'exposition photographique de portraits de Toulousaines, femmes inspirantes, femmes remarquables, déployées à l'échelle de la ville de Toulouse, vise à encourager les femmes à oser, à expérimenter, à créer, à ouvrir le champ des possibles. Ces parcours témoignent de grands progrès en matière de rôles sociaux traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. Elle est co-construite par la mairie de Toulouse, des communes de la métropole, les associations et les partenaires de quartier pour encourager l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. De nombreux rendez-vous, qu'ils soient culturels, sportifs, sont aussi proposés.
Comme chaque semaine, le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix et Marina Léonard. La troisième information de ce flash concernait le mois d'égalité femmes-hommes dans la métropole toulousaine. Et il se trouve que le Quai des Savoirs y participe, et je crois de façon très active.
Effectivement, le Quai des Savoirs, comme chaque année, est très impliqué dans cette action. Donc c'est une action qu'on mène tout au long de l'année, mais qui a une visibilité plus forte à ce moment-là. Donc c'est une proposition qu'on nomme chaque année sous le nom des femmes scientifiques sortent de l'ombre, avec cette idée de mettre à l'honneur les femmes scientifiques, puisque c'est quand même notre sujet, d'encourager pourquoi pas les carrières, de sortir des idées reçues et puis sortir un peu des stéréotypes. Donc cette année, par exemple, on parle des mathématiques, parce que c'est bien connu, les femmes sont nulles en maths.
Je n'ai jamais pensé ça, il ne faut pas me soupçonner.
Donc absolument pas. Donc l'objectif est effectivement de sortir de ces préjugés, de peut-être donner la parole à des femmes scientifiques qui travaillent dans ces domaines, et puis d'encourager filles et garçons à faire des mathématiques, parce que c'est toujours plus intéressant de le faire à plusieurs.
Ouais, je crois qu'en France, de toute façon, que ce soit filles ou garçons, les maths, ça ne marche pas très bien depuis quelques années, donc il y a du travail pour les deux sexes. Merci pour tous ces compléments d'information. Retour maintenant au thème principal de cette émission, l'exposition Esprit critique, détrompez-vous au Quai des Savoirs.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropolez-vous avec mon invitée Marina Léonard, responsable de la programmation au Quai des Savoirs. Si l'on remonte à la genèse de l'exposition Esprit critique, détompez-vous, qu'est-ce qui a amené l'équipe de programmation du Quai, dont vous êtes responsable, à consacrer sa grande exposition annuelle au thème des fake news, des rumeurs et des idées reçues dans tous les domaines? C'est un peu un sujet à la mode depuis quelques années, on en parle beaucoup, mais est-ce que le phénomène n'a pas pris encore plus d'ampleur depuis le début de la crise sanitaire et toutes les controverses qu'il y a eu autour de la vaccination notamment?
Alors, juste avant, pour corriger, c'est pas une initiative uniquement du service programmation, mais bien une problématique prise en compte par l'entièreté de l'établissement. Donc, c'est toute l'équipe du Quai des Savoirs qui est derrière ce projet, et effectivement derrière ce projet depuis des années. Cette question de l'éducation aux médias, de l'esprit critique, c'est un fil rouge du Quai des Savoirs depuis son ouverture. Alors là aussi, avec des actions plus ou moins visibles. Alors, parfois, on va être plutôt sur des projets pédagogiques, parfois sur des conférences, des rencontres. Là, c'est vrai qu'on avait envie vraiment de lui donner une grosse visibilité, puis on l'a fait à plusieurs. On l'a fait avec deux partenaires. Le partenaire pilote qui était quand même à l'origine de l'idée et de la proposition, c'était Universcience Paris, donc avec la fermeture du Palais de la Découverte, qui avait cette volonté de continuer à œuvrer sur le territoire et notamment en région, comme on dit à Paris, et également le centre de Cap Science à Bordeaux. Donc on était vraiment sur ce travail en coproduction, tous les trois, avec cette volonté de partager autour de l'esprit critique, parce que c'est une problématique réelle au niveau de la culture scientifique, technique, industrielle, c'est notre fonds de commerce, c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, parce que c'est une demande, une réelle attente. Les ministères aussi demandent d'attendre beaucoup là-dessus, donc que ce soit l'éducation nationale qui a des missions d'accompagnement de ses élèves, qui a aussi besoin d'outils, parce que c'est facile de faire des choses en classe, mais pas tant que ça finalement. Et puis peut-être avoir d'autres façons de les approcher. Le ministère de la Recherche, bien évidemment, le ministère de la Culture. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mobilisation de toutes ces grandes instances. Tous les acteurs de culture scientifique, technique, industrielle qui y travaillent aussi depuis des années. Et il y avait cette volonté de développer une exposition à quelque chose de vraiment fort. Là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, quand on dit esprit critique, le terme n'est pas très sexy sur le papier. Donc on se dit comment on va pouvoir aborder ça, comment on peut rentrer dans ce sujet, dans ces problématiques, sans que ce soit quelque chose de didactique, rébarbatif, pédagogique au sens panneau à lire. Et donc ça a été vraiment le fruit d'un gros travail de plusieurs années de réflexion, de partage, de choix, d'orientation, de vraiment cette idée de proposer une expérience de visite aux visiteurs qui soit à la fois originale, enrichissante et qui lui permette aussi de retirer autre chose que simplement la lecture d'un bouquin ou d'un article.
Comment on construit une exposition de cette envergure après que son thème a été défini et avec qui? Alors, je crois que la condition préalable à toute exposition de ce genre, c'est la constitution d'un comité scientifique.
Ah oui, ça c'est quelque chose qui est incontournable. Toute expo a son comité scientifique. Donc là, on était trois partenaires, donc l'objectif était vraiment de co-construire, comme le reste de l'expo, le comité scientifique. Donc là, on a eu vraiment à cœur de construire ce comité avec paritaire, puisqu'on parlait du mois égalité femmes-hommes, donc avec cette volonté d'avoir aussi bien des scientifiques féminins que masculins, d'avoir aussi des représentants de différentes disciplines qui puissent venir apporter le regard de leur discipline, donc que ce soit encore une fois des sciences exactes comme des sciences humaines et sociales. Donc il y avait aussi bien des philosophes, des sociologues, des spécialistes de sciences cognitives, d'éducation aux médias, etc. Donc on est vraiment dans cette idée d'avoir un comité scientifique, comme chaque fois, pluridisciplinaire, avec des croisements de regards et des complémentarités, qui permet justement de venir compléter, nous, nos idées d'établissement de culture scientifique et technique, avec les éclairages de la recherche, de ce qui se passe, de la biblio-scientifique, etc.
Une exposition de ce genre, de cette envergure, comme je le disais, ça se prépare très longtemps à l'avance. C'est quoi? C'est des années à l'avance?
C'est des années à l'avance. Ça fait 4 ans, je crois, que les premières actions ont été faites, les premiers échanges réalisés. Sachant qu'elle a été présentée l'année dernière déjà à Bordeaux, qui avait ouvert le bal. On a pris la suite au niveau du Quai des Savoirs, donc ils l'ont présentée de la réouverture des établissements, parce qu'effectivement, on a l'actualité brûlante sanitaire, puis maintenant l'actualité politique. On est effectivement en plein dans le sujet.
Au cœur du sujet, alors donc, exposition co-conçue avec Cap Science et le Palais de la Découverte, déjà présentée à Bordeaux. Quels sont les objectifs et que propose-t-elle au public? Le parcours, les ateliers, les exercices? En général, l'angle est assez ludique et participatif, hein, ça c'est le but.
Effectivement, alors on parle de salle de musculation pour votre esprit. Il n'y a pas de fonte, il n'y a pas de poids à soulever. Par contre, effectivement, vous êtes dans une situation où vous êtes acteur. Donc le parti qui a été choisi avec les partenaires, c'est effectivement de proposer aux citoyens, encore une fois, nous tous, de se retrouver dans un cadre qui connaît assez classique. Et là, on a choisi le cadre d'une ville, alors une ville fictive qui s'appelle Critique. assez basiquement. Et donc, là-dedans, on retrouve tous les codes habituels d'une ville. Il y a une mairie, il y a une pharmacie, il y a un supermarché, il y a un food truck pour acheter à manger, une salle de spectacle, un kiosque à journaux. Et puis, on va pouvoir naviguer dans ces différents espaces bien connus de notre quotidien, puisqu'on y va à peu près tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines, à travers un certain nombre de jeux, de petits défis, de petites énigmes, de mises en situation qui vont vous amener à vous retrouver face finalement à des situations que vous croisez tous les jours. Donc, pourquoi je vais choisir ce produit-là plutôt qu'un autre? Pourquoi je vais voter pour cette personne plutôt que pour une autre? Pourquoi je vais acheter ce médicament et lui faire confiance plutôt qu'à un autre? Pourquoi je vais choisir ce magazine plutôt qu'un autre? Et finalement, c'est toutes ces situations qui sont quotidiennes sur lesquelles nous, on fait des choix qui forcément vont orienter notre consommation, notre information, etc.
Alors donc c'est comment on peut savoir à qui on peut faire confiance, comment savoir si une information est fiable. On parlait de complotisme tout à l'heure, de théorie complotiste, ça aussi c'est un sujet très à la mode. Donc, en gros ça consiste à douter de tout et de tous. Mm-hmm. D'abord comment on se rend compte que soi-même on est tombé un peu là-dedans? Les exercices doivent y amener. Est-ce qu'on vous montre le degré de contamination au complotisme qu'elle vaut? Je plaisante, mais et comment on peut arriver à en sortir?
Alors, les petits quiz sont pas tellement pour se rendre compte si on est complotiste ou pas, mais plutôt pour savoir si on est à quel point on va être vigilant sur un certain nombre de choses. Donc, les visiteurs sont invités à prendre un petit bracelet connecté. Donc, vous avez une visite avec un parcours connecté. Donc, à chaque jeu que vous allez faire, vous allez pouvoir badger et ça va vous donner votre score. Est-ce que vous êtes attentif, pas attentif? Est-ce que vous êtes fait berner par tel type de choses ou pas? Est-ce que vous êtes tombé dans tel type de panneau ou pas? Et puis, vous allez pouvoir collecter un certain nombre de badges. Je ne suis pas un pigeon. Mémoire d'éléphant, etc., et qui vont finalement vous donner un peu un... Alors, c'est pas une mesure scientifique, encore une fois, parce qu'on est dans du jeu, puis souvent, ce qui est intéressant, c'est de le faire à plusieurs. On en invite souvent, surtout les scolaires, à le faire par petits groupes de 4-5. Les familles, c'est pareil. Quand on joue avec des fratries, ça peut être toujours intéressant, parce que justement, entre le regard d'un plus jeune, d'un plus âgé, le parent, l'enfant, l'ado, c'est vrai que ces regards complémentaires, ces sources complémentaires aussi, on peut le dire, vont amener une intelligence collective un peu différente, une vigilance un peu différentes et peut-être des scores meilleurs.
Donc
ou pas.
Ça mesure bien un peu si c'était votre degré de contamination théorique complotiste, en tout cas votre perméabilité peut-être aux fausses nouvelles. Un journaliste, ce qu'on lui apprend entre autres, c'est de croiser les informations. C'est aussi comme ça qu'on en sort du complotisme, si tant est qu'on soit tombé dedans?
Alors effectivement, croiser les sources, c'est la base, déjà, ne pas être dans une seule source d'information. Après, c'est vrai que c'est la base, mais c'est pas la seule chose, puisque au-delà des sources, il y a aussi nous, intrinsèquement, puisque notre cerveau, lui, il est soumis à des choses qu'on appelle les biais cognitifs. Donc il y en a plein. On ne va pas vous les lister là, ni vous en faire la définition, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, c'est vrai qu'on sait que notre cerveau, il aime bien aller vers le plus simple, vers le plus rapide.
Le plus rassurant, peut-être.
Le plus rassurant, le plus réconfortant. Donc, c'est vrai que quand on va recevoir une information via les réseaux sociaux qui va dans le sens de ce qu'on croit, ce qu'on pense, notre opinion, notre avis, on va avoir tendance à s'y fier directement et avoir moins tendance à aller vérifier les sources de celui-là. Si l'information vient d'une personne dans laquelle vous avez confiance, pareil, vous allez lui faire confiance, même si c'est peut-être pas son sujet de prédilection. Donc il y a croiser les sources, mais après il y a aussi voir par rapport à l'interlocuteur qui nous parle, est-ce que c'est vraiment un spécialiste de ce domaine-là. Donc là aussi, on est sur le côté croiser les sources, c'est pas parce que quelqu'un vient du médical qu'il est forcément spécialiste de tous les domaines médicaux, on le sait, c'est très vaste, un ophtalmologue va pas être forcément
spécialiste. C'est pour ça qu'il est spécialiste d'ailleurs.
Exactement. Donc, il y a effectivement toute cette vigilance. D'où vient le message? De quelle date? D'où vient le message en termes de date, en termes de lieu, en termes d'angle de vue? Le travail sur les photos, vous en parliez tout à l'heure, sur le travail de l'information pendant la guerre. Les images qui nous arrivent avec des images qui viennent de jeux vidéo, ça fait plusieurs années que ça existe. Ça s'appelle le deepfake. On sait que ça existe. Il faut y être très vigilant. Et puis, c'est un peu la responsabilité de tous et de toutes là-dessus.
Alors, je crois vous créez des situations pièges. Vous essayez vraiment de piéger le visiteur. Oui.
Ah bah oui. Alors, des situations pièges, non.
Il faut faire attention à ne pas le vexer quand même.
Non, les gens ne se vexent pas. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une très, très grande curiosité et une grande envie en fait, de jouer. C'est vrai qu'une des premières remarques qu'on a faites, nous, des premiers constats, c'est le temps que passent les publics dans l'expo. Par rapport à un temps habituel, les temps moyens de visite d'expo chez nous, c'est plutôt 1h15 pour la grande expo, 1h15, 1h30. Là, les 2h, les publics s'en saisissent vraiment. Il y a une vraie volonté de faire un maximum de dispositifs, de faire les jeux, de bien comprendre comment ça marche, de participer activement, d'aller jusqu'au bout de la démarche et de poser beaucoup de questions aux médiateurs. On voit vraiment médiateur ou médiatrice. Il y a une vraie appétence, il y a une vraie curiosité, alors certainement liée au contexte, avec toute cette idée qu'on peut si facilement se laisser manipuler. Comment est-ce que je peux essayer de déjouer ça pour que la prochaine fois, je fasse un peu plus attention ou en tout cas, je sois conscient que je puisse tomber dans le piège.
Est-ce que l'expo s'adresse prioritairement quand même à des esprits à la base très scientifiques, je veux dire dans leur tournure. Pas forcément des gens qui ont fait des études scientifiques, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, des gens qui sont beaucoup dans la logique, qui seraient peut-être moins littéraires ou moins rêveurs, vous voyez ce
Alors...
que je veux dire ?
Pas forcément, parce que si on prend quelques exemples, il y a par exemple au niveau de la mairie, puisque c'est pareil, on est dans une actualité forte, puisque les présidentielles approchent à grands pas. Par exemple, sur la parole politique, il y a des petits dispositifs, par exemple, sur un discours qui va être des mêmes idées qui vont être amenées différemment. Donc, avec trois personnages qui vont être là, exactement le même individu, mais habillé différemment, qui va s'adresser à vous différemment. Et comment finalement, moi, je vais être sensible, peut-être plus à une chemise déboutonnée du premier bouton ou par un nœud de cravate. Est-ce que ça va être plutôt le sourire? Est-ce que c'est plutôt le fait de m'adresser
ça, c'est l'apparence.
À moi? Voilà, l'apparence, mais il y a aussi la rhétorique. Et finalement,
tous
ces éléments-là...
Mais ça compte, l'apparence dans la politique, évidemment.
Voilà.
On le sait, mais
dans quelle mesure est-ce qu'on y est sensible et à quoi on va être sensible? Ça, c'est pas forcément des choses dont on a conscience.
Absolument.
Et là, l'idée, c'est de se rendre compte face à trois petits discours vers qui j'aurais envie d'aller, vers qui je voterai, sachant que je ne connais pas cette personne-là, mais par rapport simplement à la forme, son discours, son sourire, sa posture, sa façon de se comporter, je vais voter pour cette personne ou vers une autre.
L'exposition s'adresse, celle-ci précisément, aussi à toutes les tranches d'âge, où il y a quand même, il faut avoir quel âge pour vraiment en profiter complètement, être sensible à tout ce qui va nous être présenté.
Alors à partir de 10-12 ans, c'est le bon âge. À partir de 10 ans, c'est voilà, quand on commence à rentrer au niveau du collège, voilà, on y est, c'est vraiment le public à partir duquel on peut vraiment profiter de tous les dispositifs. Après, s'il y a des enfants un petit peu plus petits qui sont dans le cadre d'une famille avec une fratrie, encore une fois, ce travail collaboratif, il fonctionne, parce que pour le coup, il y a des petits jeux, des petits pièges dans lesquels les enfants un peu plus jeunes sont des fois beaucoup plus vigilants que nous.
Ça ne m'étonne pas. Comment vous espérez que le visiteur de l'exposition va ressortir de celle-ci? Est-ce que vous espérez qu'il va avoir la capacité d'ajuster après l'exposition son degré de confiance aux informations dont il est abreuvé et à celles qu'il ira chercher lui-même?
Alors, ce qu'on espère, c'est qu'au moins il ait un peu plus conscience de tous les pièges dans lesquels il peut tomber. Après, évidemment, on ne peut pas non plus devenir complotiste sur tout le temps, parce que sinon on y passerait un temps infini. Et puis on a besoin d'une certaine efficacité. Encore une fois, c'est ce que je disais, quand on va acheter son pain, quand on va acheter on est en permanence soumis à ça. Donc on ne peut pas être en permanence en train de tout checker tout le temps. Par contre, effectivement, il faut savoir...
Parce que ça, c'est le revers de la médaille.
C'est le revers de la médaille. Donc effectivement, déjà, en avoir conscience, savoir où sont les pièges, où sont mes points de faiblesse à moi personnellement, et du coup être un peu plus vigilant là-dessus sur un certain nombre de choses, c'est déjà très bien. Pareil, sur toutes les pratiques de réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, me dire, c'est pas parce que je reçois une information qu'il faut que je la retweete ou que je la repartage, ça clairement c'est une règle qu'il faut se donner. Il y a des éléments, on sait pas d'où vient la source. Combien de fois on a vu repasser des tweets et des retweets de trucs qui avaient 4 ou 5 ans parce que c'était choquant, c'était attristant, ça donnait envie, ça suscitait une émotion, donc du coup on a plus envie de le partager. Des fois effectivement l'information elle datait de 4 ans, il faut arrêter de faire ça quoi. Donc effectivement c'est plus sur ces sujets-là se dire, il y a des choses, voilà, il faut être vigilant là-dessus, se donner certaines règles personnellement. Après effectivement tout le monde ne tweete pas, tout le monde ne retweete pas, donc pour cela ça n'aura pas d'intérêt, mais par contre peut-être plus de vigilance sur les histoires de marketing, etc. C'est vraiment personnel par rapport à des pratiques individuelles, finalement.
Cela dit, une information qui a 4 ans peut toujours être vraie. Hein.
Elle peut toujours être vraie, mais après, ça dépend comment on la retweete.
Ça dépend de quoi il s'agit. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi à expérimenter au quai en ce moment, ou même au cours de l'année? Parce que on parlait tout à l'heure du mois de l'égalité femmes-hommes, mais vous participez aussi à beaucoup d'autres événements.
Exactement. Autour de cette exposition, on a toute une programmation donc, qui va se déployer dans le quai des savoirs et hors les murs, donc avec des cycles de rencontres, notamment un cycle de rencontres qui s'appelle Questions de confiance, qui a lieu tous les derniers mardis du mois, qui est en coproduction avec l'Université fédérale, où on va venir parler de cette question de confiance envers différents sujets. On a traité notamment sur le premier rendez-vous de la confiance dans la parole politique. On y revient sur ces questions de rhétorique, de forme,
oui,
de message.
C'est très actuel, évidemment.
Voilà, on a parlé aussi de la confiance dans les médias. Là, on va parler des chiffres et des statistiques. Donc, dans ce monde de chiffres, comment on peut avoir confiance, en qui, en quoi, pour faire quoi, comment on s'appuie là-dessus. Donc, il y a plein de sujets. On travaille aussi, notamment pour la semaine du cerveau, avec un certain nombre de rendez-vous. Parce que là, par exemple, typiquement, la question des neurosciences est en plein dedans, sur des choix, des positionnements, même sur les enquêtes, la mémoire, la fiabilité de la mémoire à travers le temps, sur... Voilà, il y a plein de sujets qui sont traités là-dedans. On travaille aussi avec l'année Molière 2022, puisque autour de Molière, tonnes de fake news.
Et on parle des sciences humaines, des sciences sociales, même autour de Molière.
Exactement.
Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière?
Et voilà.
On en parle encore de ça.
Mais effectivement, il y a une ribambelle.
Ça ne date pas d'aujourd'hui, les fake news. Hein.
Ça ne date pas du tout d'aujourd'hui. Donc déjà, Molière, déjà, il y a beaucoup de choses.
Il y a 400 ans, oui.
Voilà, tout pile cette année, donc pour l'anniversaire. Donc on a des rendez-vous spécifiques qui vont se passer dans des maisons de chômeurs de la ville de Toulouse, comme au Quai des Savoirs, sur cette question des fake news. On va parler d'images, notamment avec le pavillon blanc de Colomiers, avec une exposition de quatre artistes d'art visuel qui traitent de cette question de l'image, du deepfake, etc. Donc voilà, toute une série de rendez-vous qu'on peut retrouver tout au long de l'année. On travaille aussi avec un sujet qu'on vient de terminer au Quai, qui est la démarche scientifique, qui est quand même au cœur de nos réflexions, avec un projet en partenariat avec le CNRS qui s'appelle Derrière le Blob, la recherche. Parce que le Blob, ça a été un bel outil, donc c'est un bel outil de recherche, ça a été très médiatisé, très utilisé en termes pédagogiques, mais c'est aussi encore et toujours un sujet de recherche scientifique pur et dur, avec notamment là un gros projet de recherche participative à l'échelle de 15 000 volontaires.
Rapidement, avant de terminer, est-ce qu'on peut avoir quelques informations, quelques indiscrétions sur le thème de l'exposition, de la grande exposition de l'année prochaine ?
Alors on va partir sur un tout autre sujet, puisqu'on va partir sur le thème du feu.
Le feu ? Alors là, on peut imaginer beaucoup de choses.
Exactement, je vous laisse.
Origines à nos jours, sans doute. Le feu, bon, alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais éteindre les feux parce qu'il est temps de conclure. Merci beaucoup, Marina Léonard, d'être venue nous rendre visite et nous avoir présenté la passionnante exposition Esprit critique, détrompez-vous, à découvrir au Quai des Savoirs jusqu'au 6 novembre prochain. Le quai est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h et vous pouvez vous renseigner en consultant son site internet garanti sans fake news à l'adresse www.quaidessavoirs.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupré, à la technique Thibaud d'Autuil. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.